L'atelier des médias.
La scène se passe dans une banlieue chic de l'Est parisien. Il est 18h et notre reporter Mélissa Barra s'apprête à vivre une soirée culturelle.
Il y a d'autres macolotes qui vont venir nous rejoindre.
Et qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui du coup ?
Broad City.
C'est quoi ?
Une série sitcom américaine qui se passe du coup à New York. Et en fait, ça raconte l'histoire de deux filles qui sont meilleures amies, à qui il arrive des histoires plutôt banales, mais burlesques, et c'est assez drôle.
Le jeune homme qui parle avec Mélissa s'appelle Steven. Il est étudiant en cinéma. Il est ce qu'on appelle un sériphile, un passionné de séries télévisées. Il aime particulièrement les sitcoms, ces productions humoristiques dont les épisodes durent moins d'une demi-heure. Il existe bien entendu d'autres genres de séries. Il y a des trames historiques comme les Borgia, des séries fantastiques comme bien entendu Game of Thrones ou des drames comme House of Cards. Il y a quelques semaines, Mélissa Barra a partagé avec Steven et deux de ses amis étudiantes une soirée de binge-watching, de gavage de séries télé. Mélissa, tu connaissais très bien ce sport puisque tu le pratiques depuis quelques années déjà.
Et nous sommes nombreux dans le monde à y consacrer une bonne partie de notre temps libre. La culture des séries a donné naissance à des pratiques et des comportements nouveaux, souvent liés à Internet. Sur les affiches publicitaires, dans les médias d'information, sur les réseaux sociaux, les séries TV nous occupent et nous racolent en permanence. Elles s'immiscent dans nos conversations en ligne et hors ligne. Comment les séries télé ont acquis une présence si importante dans notre culture et dans notre quotidien ? Que révèlent-elles de notre rapport aux médias ? Que nous disent-elles de nos sociétés ?
Ces questions vont nous occuper pendant 2 semaines. Dans cette émission, nous nous penchons sur l'omniprésence des séries dans notre vie privée et publique. La semaine prochaine, nous interrogerons la capacité des fictions télévisées à nous représenter et à réfléchir notre monde. Je suis Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias, un projet porté par Simon Decreux, Manon Mella, Mathias Virilli, Camille Deloche et Mélissa Barra. Restez avec nous, un peu de recul avant de replonger dans la soirée binge-watching.
La série, et c'est ça qui est passionnant aussi, est un genre en mouvement perpétuel qui se réinvente beaucoup. Et donc on pourra toujours, peut-être demain, voir quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un métier passionnant, parce qu'on ne s'ennuie quasiment jamais, puisqu'on est confronté en permanence à de nouveaux enjeux, aussi bien dans ce que racontent les histoires que dans les formes qu'elles prennent.
Lui, c'est le journaliste et critique Pierre Langlais. Il est le monsieur série du magazine culturel Télérama, et son métier consiste à observer et raconter l'univers des séries télé et son évolution.
Les séries sont omniprésentes. On prend toujours l'exemple de la machine à café. À la machine à café, au boulot, ou dans le métro, si vous voulez, on parle de quoi ? Disons que si l'auditoire est mixte, on aura tendance à parler des grands événements sportifs du moment. En fonction aussi là, de vos amis, vous allez parler de politique. Au boulot, beaucoup moins. Et puis vite, les séries vont arriver. Il suffit de prendre le métro pour se rendre compte que les gens regardent sur leur téléphone portable, qu'ils en parlent entre eux. Il y a des séries comme Game of Thrones. Si vous voulez absolument qu'on vous raconte pas la suite de l'histoire, vaut mieux mettre un casque et écouter de la musique dans les transports en commun. Parce que c'est une discussion permanente avec les réseaux sociaux, avec toutes ces choses-là.
RFI. Mélissa, il y a quelques semaines, donc, tu as passé la soirée en compagnie de Steven et deux de ses amis, Indiane et Adriane, pour un marathon de séries télé.
Un grand lit douillet, un ordinateur portable et quelques boissons, ce sont des ingrédients simples pour une soirée binge-watching réussie.
En fait, on va regarder en streaming, là, parce que Broad City, c'est... Enfin, je sais pas du tout, mais je crois que c'est pas sorti en France, donc du coup c'est un peu compliqué de trouver sur une plateforme, je sais pas comment je pourrais dire, légale,
officielle.
Ouais. Donc du coup on fait comme on peut avec ce qu'on a.
Mais là tu fais quoi du coup, tu googles
Le nom
de la série ?
Non, pas du tout. Enfin, moi j'ai un site super, ils ont vraiment tout. Et c'est partagé entre traduit en VOSTFR et en VF. Enfin, si la série est en français. Comment ?
Donc c'est sur un site que tu utilises, que vous utilisez souvent pour regarder des séries, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ils ont tout en fait en avant-première même. Il y a juste le problème des pubs, quoi, mais...
Parce qu'ils marchent avec de la pub.
Exactement, ouais. Ils marchent avec de la pub. On compte... Il y a des espèces de croix. Genre, j'explique rapidement, mais il y a des espèces de croix qu'il faut cliquer pour lancer la lecture de la série. Et forcément, ça ouvre une page de pub qu'il faut fermer, etc.
Parfois, c'est piège parce qu'il y a deux croix, une visible rouge et une grise. Et on voit jamais la grise, du coup parfois tu galères à l'enlever et tout. Du coup tu mets 15 minutes avant de voir ton...
Exactement, dans le noir, faut la chercher.
Mais c'est un peu le prix à payer pour voir d'une série gratuitement à n'importe
Exactement.
Quel moment.
Ouais. Mais moi je me plains, enfin je me plains pas personnellement,
non,
c'est
bien.
Pas ce qui me dérange plus. Et vraiment le truc super c'est que ça marche sur l'iPhone.
Ah, c'est-à-dire que tu regardes des séries souvent sur ton iPhone?
Exactement.
Ça te dérange pas que ce soit un tout petit écran?
Ça dépend lesquelles. En général, les séries d'action, c'est plus dérangeant, je pense, parce que c'est mieux quand l'écran est plus large et on a plus l'impression d'immersion. Mais quand c'est les petites séries un peu comiques, sitcom, tout ça, non, ça va, ça dérange pas, c'est pas trop trop grave que ça soit un petit écran.
Donc là, tu tapes juste le site et t'as un catalogue?
C'est ça. Et du coup, il y a des séries, des films et des animés.
D'accord. Les slogans, c'est « Le stream est un droit ».
Voilà. Tout est dit. Alors, je tape mon petit truc ici. Et voilà, il y a les 3 saisons.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je mets à partir de l'épisode 6.
Ouais, ça marche. Bah du coup, ça vous va si on se met genre accroupi et on met l'ordi ici?
Ouais.
You guys sound so good. I'm a record producer and I've been looking for two drummers for a project that I'm starting.
Oh my god. Et c'est ainsi qu'a commencé notre voyage dans le temps des séries sitcom. Un voyage qui a duré quelques heures ce soir-là, un voyage qui aurait été impossible sans un bon débit internet. Il y a 10 ans, il fallait un abonnement aux chaînes câblées ou une belle collection de DVD pour s'adonner au binge-watching.
Pierre Langlais.
L'évidence même, c'est qu'internet a bouleversé la consommation des séries, l'écriture des séries même, si j'ose dire, parce que financièrement, c'est des enjeux évidemment qui sont clés. L'importance de Netflix aujourd'hui en France, qui est donc ce site de VOD, comme on dit, vidéo on demand, donc la vidéo à la demande, qui croît sans cesse et qui a un impact sur la façon dont les gens vont consommer en binge. Hein, je vous fais beaucoup d'anglicisme, j'en suis désolé, mais c'est-à-dire tout d'un coup, c'est pas un épisode chaque mardi, c'est 5, 6, 10 épisodes dans la même journée. Évidemment, ça a un impact. Et il ne faut pas se voiler la face. Il y a une frange du public, celle des gens qui sont les plus pointus. Alors, il y a une partie de ces gens-là qui sont abonnés à tout un tas de bouquets, de OCS, de Canal+, de Netflix, de tout ce qui existe ici et ailleurs, mais qui, évidemment, consomment aussi les séries illégalement, avec le téléchargement illégal, le streaming, comme on dit, qui fait que aujourd'hui, le monde des séries est de plus en plus large et de plus en plus accessible. À moins de vivre dans un bled sans connexion internet, ou à moins d'être quelqu'un qui respecte la loi. Et encore, comme je vous l'ai dit, si vous vous abonnez à l'intégralité des bouquets câblés et Netflix, etc., vous pouvez quasiment tout voir légalement aujourd'hui. Donc évidemment, ça change fondamentalement le rapport qu'on peut avoir aux séries télé, y compris d'un point de vue des médias. Parce qu'il y a des séries qui aujourd'hui ne sont pas diffusées en France, qui font quand même la une des journaux. C'est-à-dire que Libération, pas plus tard qu'il y a quelques mois, a fait un papier sur la folie série, sur voilà, tout l'impact des séries, etc. Et étaient citées des séries qui ne sont pas diffusées en France. Parce qu'on considère qu'elles vont être diffusées, qu'elles ont été achetées, qu'elles vont être achetées par des diffuseurs. Et c'est valable pour tous les pays. Après tout, on n'en voudra pas à un journaliste spécialiste de l'automobile d'aller sur les salons de l'automobile et de dire, eh ben, écoutez, la nouvelle voiture de telle marque qui n'existe pas encore à la vente dans notre pays va être super. Attendez qu'elle arrive dans votre pays, achetez-la. C'est un débat de fond, mais évidemment, aujourd'hui, il y a une mondialisation de la consommation, de la production, et sans compter que les séries, en plus, maintenant, sont produites entre les pays. C'est-à-dire que c'est plus juste un Français qui fait une série, ça va être un Français avec un Anglais, ou un Français avec un Allemand, un Français avec un Italien, un Allemand, un Américain, un Canadien, enfin voilà, tout le monde travaille ensemble. Donc il y a une vraie mondialisation qui est clairement aussi une conséquence d'Internet, des réseaux sociaux, de tout. Voilà, du fait qu'aujourd'hui, on est, comme on disait à l'époque, le village mondial ou quelque chose comme ça.
C'est indéniable, Internet est au cœur du succès actuel des séries. Face à cette nouvelle donne, le visionnage en ligne est-il devenu une pratique généralisée? L'écran connecté a-t-il détrôné le bon vieux poste de télévision?
Il y a une majorité du public qui est un public de consommation modérée, qui allume la télévision encore, qui n'est pas dans les consommations en ligne ou le rattrapage qui demande un petit peu plus de, d'entraînement, si j'ose dire, et qui du coup vont aller regarder les séries de prime time de TF1, donc de grandes écoutes, de 20h50, de 21h, qui vont aller regarder Plus belle la vie, qui vont aller regarder ce qui se passe sur M6, qui vont aller regarder des choses qui sont pas forcément les mêmes que les spécialistes vont aller chercher. Et il faut pas oublier que les 8-9 millions de téléspectateurs des meilleures séries américaines de TF1 sont pas nécessairement des passionnés de séries. Mais je crois qu'il y a globalement une curiosité. Il y a une curiosité qui fait que moi, quand je vais chez mon boucher, qui m'a un jour m'a vu à la télé et donc a compris quel était mon métier, va me dire « Alors, vous avez vu ?» Voilà. Et ça, pour moi, c'est la preuve que... Je dis pas que mon boucher est représentatif de la société française, mais c'est preuve qu'il y a une espèce de curiosité permanente.
Une curiosité qui est globale, c'est-à-dire qui est généralisée, ou est-ce que c'est plutôt un certain public, une certaine tranche d'âge
À chaque série, son public. Le public qui a un capital culturel fort, comme on dit, c'est-à-dire qui va beaucoup au cinéma, qui lit, qui a fait des hautes études, etc., c'est un public qui va aller plus naturellement consommer des séries d'auteurs, des séries plus complexes. Pas uniquement, hein, il faut pas faire des cases qui sont fermées, mais on aura plutôt une tendance à aller chercher des séries qui parlent de sujets complexes, sociétaux, politiques, qui émotionnellement sont complexes, qui sortent des cases traditionnelles, etc. Il y a un plus grand public, qui est un public qui est aussi peut-être moins éduqué à la série télé elle-même, mais qui au fur et à mesure commence à comprendre les codes, qui aura plutôt un penchant pour les polars, pour les comédies familiales, pour des choses qui sont... Et encore une fois, je dis ça sans aucun mépris, qui sont plus facilement compréhensibles des séries où on va pouvoir regarder juste un épisode et ensuite aller faire autre chose, louper 2-3 semaines de diffusion, puis regarder encore un autre épisode, contrairement à des séries qui sont extrêmement feuilletonnantes, comme on dit, c'est-à-dire dont c'est une seule et même histoire qui se développe sur plusieurs épisodes, où là il faut une persévérance, où il faut une présence régulière. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de publics. La plupart des publics sont fans d'une ou deux séries. Ils aiment beaucoup Castle, ou ils aiment beaucoup Mentaliste, ou ils aiment beaucoup Big Bang Theory. Et ils vont regarder tous les épisodes de cette série-là plusieurs fois, mais ils vont pas nécessairement aller regarder 40 séries différentes à la fois. Le sériephile, rien que ce mot-là est complexe, parce que ça sous-entend une multitude de pratiques. Moi, j'aime pas le mot addict, qui est un peu négatif, parce que ça fait genre c'est une drogue, j'en peux plus, je me fous ma série à tout prix. Ne inquiétez pas, ça va très bien. Des fois, je pars en vacances 2 semaines et je regarde pas une seule série.
Et pourtant, l'addiction, c'est un terme qui est communément utilisé pour parler des séries.
C'est un terme qui est communément utilisé, mais il y a plein de termes communément utilisés que je n'aime pas. Par exemple, j'aime pas le mot phénomène. Pour moi, c'est pas un phénomène, les séries télé. Ça a été un phénomène. Aujourd'hui, c'est posé, c'est stabilisé, les séries sont là. Est-ce que vous dites du cinéma que c'est un phénomène ou du football que c'est un phénomène ? Non. Le phénomène, pour moi, il est consommé. Maintenant, il s'agirait d'analyser les séries pour ce qu'elles sont et non pas seulement pour les addictions ou les déviances sociétales qu'elles provoquent. Et ça, pour moi, voilà, c'est important de considérer aussi les séries pour ce qu'elles sont, dans leurs histoires.
Salut.
Salut. Oh, mais dis donc, c'est quoi cette tête? Ah, t'es dégoûté pour l'épisode 9, c'est
hein
ça? T'as vu que c'est qui meurt?
Non, justement, j'ai pas vu, là.
Bah attends, je te raconte juste un tout petit truc.
Non, tu me dis rien du tout, t'es fou, quoi.
Ah, mais attends, c'est bon.
Non, tu dis pas.
C'est Ben, ouvre-moi!
Comment ça se fait que t'es là si tôt?
Mais je tenais plus.
Personne t'a spoilé?
Non.
Tu mens.
Non, c'est rien du tout, je te jure, laisse-moi rentrer.
C'est trop tard, ils sont eus.
Le jargon des séries TV s'est généralisé au point d'interpeller aujourd'hui celles et ceux qui définissent les normes de la langue française, les académiciens, les académiciennes, les immortels. On a vu apparaître en septembre 2014 la définition suivante dans la section « dire, ne pas dire » du site de l'Académie française.
Le verbe « spoiler », croisement bâtard entre l'anglais par son radical et le français par sa terminaison, se rencontre aujourd'hui avec le sens de « gâcher le plaisir », en dévoilant à quelqu'un la fin d'un film ou les moments les plus intéressants de celui-ci. L'usage de ce terme se répand fâcheusement aujourd'hui et d'autant plus rapidement que le nombre de séries anglo-américaines diffusées sur nos chaînes ne cesse de croître.
Comme on ne regarde pas les séries de la même manière qu'il y a 10 ans, on n'en parle pas non plus de la même façon. J'en profite pour partager la définition d'un autre terme anglophone qu'on emploie couramment quand on parle des séries. C'est le mot cliffhanger. On le traduit littéralement par celui qui se balance du haut de la falaise. Mais il désigne en fait ce moment du récit où l'intrigue est à son comble et que l'épisode de la série touche touche à sa fin. Ce terme n'est pas nouveau, son utilisation remonte au roman feuilleton du 19e siècle. Aujourd'hui, il s'applique aux séries et je peux vous dire d'expérience que c'est un moment très douloureux, le cliffhanger.
Comme tous les phénomènes culturels, les séries TV ont popularisé un langage et des codes propres qui reflètent des comportements nouveaux. Ces codes permettent surtout de distinguer les initiés de la culture série des autres. Ne pas connaître certaines productions devient un facteur d'exclusion. Dans une conversation, on peut très facilement isoler celui qui n'a pas vu Game of Thrones ou The Wire. Chaque semaine, des millions de fans se ruent vers les sites de streaming, légaux et illégaux, à la recherche du dernier épisode de leur série préférée. Mais que vont-ils chercher exactement dans ces fictions ? Qu'est-ce qui explique le succès planétaire de certaines séries ? Pierre Langlais est spécialiste, mais aussi critique de séries télé.
Alors je peux vous dire ce qui fait que j'apprécie une série. Par contre, la recette, si je la connaissais, je peux vous assurer que j'aurais tout Hollywood qui m'appellerait, je serais milliardaire. Pour moi, le principal élément, et d'ailleurs pour beaucoup de mes confrères critiques, c'est des personnages forts et intéressants et complexes. Parce que quand on regarde une série, ce qu'on regarde avant tout, ce sont des êtres. Ce sont des destinées. Ce sont des personnages, et le mot clé, c'est l'identification, ou la sympathie, c'est-à-dire la capacité qu'on aura ou de se reconnaître dans les personnages, ou en tout cas d'être touché par leur quête. Même si c'est une quête qui est complexe et qui ne répond pas forcément à nos codes personnels, on comprendra les personnages et donc on aura envie de connaître la suite. Donc d'abord des personnages forts. Et de nombreux scénaristes, si ce n'est la majorité, seront d'accord avec moi, avant tout un personnage fort. Prenez toutes les grandes séries de ces dernières années, de ces décennies même. Si vous devez raconter à quelqu'un voilà pourquoi cette série est géniale, vous allez partir du personnage. Les Sopranos, c'est génial pourquoi ? Bah écoute, c'est l'histoire d'un mafieux qui fait une crise d'angoisse et qui du coup va... J'ai commencé par quoi ? J'ai commencé par le mec. Breaking Bad, super, c'est l'histoire d'un prof de... Ah bah zut, alors j'ai commencé par le mec aussi. C'est toujours du personnage qu'on part. Après, il y a aussi des séries qui sont géniales dans leur concept. Et ça, évidemment, c'est super. Lost, on va pas dire, c'est l'histoire d'un médecin qui... On va dire, c'est l'histoire d'une groupe de mecs qui se retrouvent sur une île hyper bizarre. Mais Lost, a posteriori, c'est l'histoire de personnages. C'est leur destinée personnelle. C'est qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette île. La vraie question de Lost, c'est l'être humain, sa destinée, sa vie, ses échecs, ses erreurs. C'est ça, l'histoire. Donc, et les personnages avant toute chose. Après, évidemment, dans un grand divertissement, les personnages, ça fait pas tout. Il faut avoir de l'action, il faut avoir du rire, il faut avoir... Voilà. La comédie, par exemple, si on prend le cas des sitcoms, hein, ces séries avec des rires enregistrés dans des décors fixes, ce qui nous accroche d'abord, c'est pas nécessairement les personnages, ce sont des stéréotypes dans lesquels on va reconnaître des codes et on va jouer avec les codes. The Big Bang Theory, un groupe de geeks, comme on dit, au départ... Leur personnalité est discrète et au fur et à mesure, elle va s'affirmer. Et ce qui va nous faire rire, c'est qu'on va reconnaître des stéréotypes. Le type associable, le gars qui n'arrive pas à parler aux filles, etc. Mais au fur et à mesure, ces types-là vont évoluer. Mais en tout cas, on partira de stéréotypes et donc ça sera important. De bons personnages ne suffisent pas toujours à faire une bonne série. Il faut aussi de belles histoires et il faut évidemment, pour les plus ambitieuses d'entre elles, un sous-texte, c'est-à-dire une capacité à nous faire réfléchir au monde dans lequel on vit. Mais on peut avoir de grandes séries qui ne nous font pas réfléchir au monde dans lequel on vit, mais qui nous feront réfléchir à nos émotions, à notre propre existence, à quelque chose qui est très particulier, très intime et très difficile. Et c'est pour ça que souvent ces séries-là ne s'adressent pas à tout le monde, elles s'adresseront à ceux qui se reconnaîtront dans les personnages et qui seront touchés par ces personnages-là. Ce sera une niche d'âge, ce sera une niche de milieu culturel, ce sera une niche de communauté, ce sera une niche, comme on dit, c'est-à-dire un public plus réduit.
Les séries nous ressemblent et nous rassemblent aussi. La communauté de passionnés est visible en ligne à travers les millions de forums, fanpages et sites dédiés, mais on retrouve aussi cette communauté dans la vie. Aureline, Mélissa, tu es allée au festival Sériemania. Sa 7e édition a eu lieu du 15 au 24 avril au Forum des Images à Paris. C'est un festival ouvert à tous et une compétition internationale. Cette année, on a pu découvrir en avant-première des productions comme The Five, une création du romancier Harlan Coben, ou la série polar belge Beau Séjour. Ces deux fictions étaient en compétition pour le Grand Prix du jury contre Cannabis, El Marginal, Jour Polaire, Mama's Angel, Nobel et The Kittering Incident. Qui a remporté cette compétition internationale ? Restez à l'écoute pour le savoir.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous poursuivons notre voyage au cœur des salons et des chambres à coucher du monde entier. C'est dans ces lieux intimes que les séries ont envahi notre temps libre. Cette semaine, nous nous intéressons à la place grandissante qu'occupe la culture série dans notre société. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que ces fictions n'ont jamais été aussi présentes dans notre vie intime ou publique. Leurs intrigues sont sur les lèvres de tout le monde, de nos amis, de nos collègues, de parfaits inconnus que nous croisons chaque jour. Elles sont omniprésentes et en même temps, elles nous isolent face à un écran. Mélissa Barra a levé les yeux de son écran à elle pour aller regarder des séries sur grand écran. Nous faisons avec elle un passage au festival Sérimania qui s'est tenu à Paris en avril dernier.
Bonjour, alors moi c'est mon introduction.
Super, bonne séance.
C'était la 7e édition de cet événement qui a pour but de réunir la communauté sériephile dans les salles de cinéma, là où d'habitude on ne visionne pas de séries. J'ai eu l'occasion de voir des créations originales en avant-première, d'assister à des conférences, de rencontrer des passionnés comme moi et aussi de participer à une réunion de sériephiles anonymes, une étrange mais très réconfortante thérapie de groupe à l'issue de laquelle j'ai rencontré un grand amateur du genre.
Bonjour, je m'appelle Camille. Et j'aime bien Sérimania. C'est pas la première année que je viens, mais je viens ici parce qu'il y a de bonnes découvertes et surtout il y a des rencontres avec des créateurs, des journalistes, des trucs comme ça, donc c'est ça qui est vachement intéressant. Quand on est sur un grand écran et dans une salle, on voit les réactions des autres et tout ça, fait qu'on peut voir si les gens ils rigolent aux mêmes choses que toi, s'ils sont aussi impressionnés par Cliffhanger, donc ça donne une autre dimension au truc.
T'as Exactement. Eu l'occasion de parler avec d'autres fans de séries ici?
Oui, un petit peu. Là, par exemple, tout à l'heure, je suis allé voir The Pass, une série sur les sectes, donc j'ai parlé avec un gars, pareil, c'était très sympa. Plus ici, tout le monde est quand même apte à la conversation et tout ça, donc c'est vachement sympa. Ouais.
Et là, tu fais la queue pour voir quoi?
Pour la nouvelle série du créateur de Dexter, je me souviens plus de son nom. Mais je sais qu'il y a Rose de Friends dans la série, donc faut que j'aille voir, c'est tout. Je suis obligé d'aller voir en plus en avant-première et tout ça. Ce qui est aussi bien dans le festival, c'est qu'il y a beaucoup d'avant-premières. Donc en plus, il y a Rose, parfait.
L'acteur qui fait Rose dans Friends.
Voilà, c'est ça, David Schwimmer.
T'as vu combien de séries pendant le festival?
Là, je compte approcher facilement de la dizaine. J'ai pas pu venir pendant la semaine, mais... Mais j'y suis allé le week-end dernier, et là, j'ai encore l'intention de venir demain, donc on va essayer de battre le record.
Tu étais à la conférence qu'il y avait tout à l'heure?
Oui.
Ça parlait de quoi?
Ça parlait de l'addiction aux séries, mais d'une façon plutôt drôle, donc c'était vachement sympa. C'était...
Quand tu dis plutôt drôle, c'est-à-dire...
C'est beaucoup de second degré, d'ironie, parce qu'en soi, on est tous addicts aux séries, mais c'est marrant de se moquer de nous-mêmes, donc ça parlait de binge-watching, aussi des relations que les gens ont avec leurs séries et tout ça, donc c'était vachement sympa.
Et elle est comment, ta relation à toi avec les séries?
Trop fusionnelle.
Tu regardes avec quelle fréquence, par exemple?
Là, vu qu'il y a les partiels et tout le bazar, j'ai pas trop le temps, mais sinon, 3 ou 4 épisodes minimum par jour.
Et maximum?
Ça dépend s'il y a des soirées, ça dépend, mais sinon, ça peut facilement aller à la dizaine.
Tu regardes combien de séries en même temps?
Une dizaine, on va dire, un truc comme ça, une petite dizaine. Sachant que, je pense que comme tout le monde, t'as des séries qui t'intéressent plus sur le coup... Il y a des moments où tu as besoin d'un certain type de série et à certains d'autres moments, tu peux te permettre de regarder des séries norvégiennes vachement glauques et tout ça.
Mais c'est quoi, toi, ton genre de série?
Les sitcoms. Alors ça, j'adore ça, les sitcoms. Tout ce qui est, bah, comme je te disais, Friends, mais même maintenant, I Met Your Mother, Parks and Recreation aussi, qui me détruit le cœur de bonheur. Donc voilà, c'est surtout les sitcoms, tout ce qui est comédie et tout ça.
Pour toi, ça veut dire quoi être sériephile?
C'est peut-être voir la série autrement qu'une série, parce que tu vois ce que je veux dire. Tu peux voir que c'est aussi un miroir un petit peu de notre société aussi. Tout ce qui est relations sexuelles, l'utilisation par exemple des choses comme Tinder, tous les... Donc ça permet de faire le miroir de notre société un petit peu.
Et ça t'apporte quoi justement de voir le monde à travers les séries télé?
Peut-être de me remettre en cause un petit peu. Ça n'est jamais arrivé, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Qui sait. Peut-être qu'un jour je changerai grâce à une série. J'attends que ce moment, c'est même pour ça que je suis là.
Bon, bah là on arrive au bout de la queue, bah, je vais te laisser regarder ta série.
Bah, merci.
Merci beaucoup et bon visionnage.
Bah, merci.
Le festival Sérimania, c'est aussi une compétition internationale. Cette année, le jury était présidé par David Chase, le créateur du succès mondial The Soprano. Le prix du jury a été remis à la série argentine El Marginal face à cette autre série. Il y avait par exemple l'israélienne Mama's Angel du scénariste Keren Weissman, la série policière suédoise Jour Polaire et la première création audiovisuelle du romancier à succès Harlan Coben qui s'appelle The Five.
Sérimania n'est pas seulement un concours. En dehors de la compétition internationale, une cinquantaine de productions du monde entier a été diffusée, pour la plupart en avant-première. L'entrée était gratuite sur réservation, mais certaines séances étaient complètes dès le premier jour. Au final, la 7e édition des Sérimania a réuni plus de 38 000 spectateurs sur un peu plus d'une semaine. Elle aurait pu en accueillir bien plus si le Forum des Images avait eu plus de salles de projection.
Le festival va s'agrandir en 2017. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Audrey Azoulay, la ministre française de la Culture, le 15 avril dernier. Elle a fait savoir qu'un grand festival international consacré aux séries allait voir le jour dans plusieurs villes de la région parisienne. Pour l'instant, on ne connaît ni son nom, ni ses dates de lancement. On sait seulement que ce festival fusionnera les deux grands messes des séries en France, que sont Sérimania et le festival Série-Série qui a lieu dans la ville de Fontainebleau. Selon la ministre de la Culture, ce projet a pour ambition d'avoir pour les séries le rayonnement qu'a le Festival d'Avignon pour le théâtre ou celui de Cannes pour le cinéma.
Les fictions télévisées sont aujourd'hui passées d'un genre mineur à un 12e art. Comment expliquer cette évolution? Qu'est-ce qui a changé au-delà de notre façon de regarder la télévision? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans le récit des séries d'aujourd'hui? J'ai trouvé des éléments de réponse dans un ouvrage intitulé « De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?» paru en 2011 chez CNRS Éditions. J'ai donc voulu approfondir le sujet avec son auteur, François Jost, professeur à l'Université Paris 3 et directeur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques.
Donc je suis sémiologue, je travaillais beaucoup sur le cinéma et sur la télévision, et depuis quelques années je m'intéresse particulièrement aux séries d'un point de vue sémiologique, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment le sens se construit, quels sont les sens principaux à dégager des séries, etc. Les séries, originellement, ce sont des récits fermés qui changent à chaque épisode. Comme, par exemple, aux USA, Starsky & Hutch, Columbo, des séries de ce genre-là. Depuis quelque temps, depuis, je dirais une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça, les séries qui sont totalement autonomes, totalement fermées sur elles-mêmes, qui racontent qu'une seule histoire, sont de moins en moins nombreuses. C'est-à-dire qu'elles contiennent toutes une dose de feuilleton. Le feuilleton étant le fait que des épisodes se suivent et que donc on doit les voir dans l'ordre chronologique parce qu'il y a, vraiment une causalité, une suite, etc. La plupart des séries dont on parle aujourd'hui sont en fait des séries feuilletonnantes, c'est-à-dire que ce sont des séries parce qu'elles construisent un monde caractéristique et elles reviennent plusieurs fois donc en série, mais elles sont toujours une part de leur histoire qui faut voir dans la chronologie, dans la suite des séries. Les séries sont devenues feuilletonnantes parce qu'évidemment, elles sont beaucoup plus, ça mène beaucoup plus de fidélisation, hein, parce que on a envie de savoir la suite, alors que si on a un épisode de série unique, bon, on peut regarder une fois, puis ne pas revenir, etc.
Comment décririez-vous la relation que nous entretenons avec les séries télé?
Le récit, c'est l'activité la plus humaine, si vous voulez. Et donc, c'est sans doute que, à côté de la réalité, qu'on comprend plus ou moins, parce qu'il y a des phénomènes, on ne les comprend pas, même les attentats, il faut expliquer d'où ça vient, bon, c'est complexe. Là, on a des récits qui sont, comme disait Paul Ricoeur, qui sont des explications. C'est-à-dire que c'est des explications du monde aussi. C'est des explications des comportements. On pense toujours que les séries sont juste des divertissements, ce qu'ils sont en partie, et on oublie que ce sont aussi des pourvoyeuses de savoir, qu'on apprend beaucoup de choses à travers les séries.
Ça fait partie de leur fonction ?
Oui, c'est-à-dire que les séries d'aujourd'hui prétendent souvent être réalistes, elles ne le sont pas toutes, mais elles apportent donc du savoir. Et c'est aussi ce savoir-là qui coach, comme on dit aux séries. C'est-à-dire le fait que, si vous voulez, des gens vont dire ben, en regardant Urgence, j'ai appris deux, trois petites choses qu'il fallait que je fasse en cas d'urgence. En regardant Sex and the City, on apprend aussi à se comporter dans la vie, par rapport aux autres, aux hommes ou aux femmes, etc. Et donc, on apprend à la fois des choses de l'ordre de l'encyclopédie, c'est-à-dire on va apprendre aussi, je ne sais pas, comment le trafic de drogue s'étend aux États-Unis à travers plein de séries, mais on apprend surtout beaucoup le comportement. Mais la deuxième chose aussi, c'est que ce qui est très très sensible dans les séries d'aujourd'hui, c'est l'utilisation de la voix over, ce qu'on appelle parfois la voix off, mais en fait, il vaut mieux dire over, cette voix qui donne les sentiments des personnages. C'est-à-dire que, vous savez, dans le cinéma américain ou dans le cinéma, très souvent, ce qu'on appelle la voix off, c'était une voix qui suppléait les manques du récit, c'est-à-dire qui racontait ce qu'on n'avait pas vu, etc. Là, la voix off des séries, elle est un peu différente. Elle raconte surtout, elles expriment les sentiments des personnages. Et donc, ça nous permet de savoir aussi, non seulement ce qu'est un phénomène, mais le ressenti possible de ce phénomène par quelqu'un. Les psychologues diraient que ça permet l'empathie, parce que à partir du moment où vous êtes d'accord sur une vérité générale, vous pouvez mieux vous accrocher au récit ou au raisonnement des personnages.
Hello friend, that's lame. Maybe I should give you a name.
Ce qu'on appelle en français la voix off et qu'en anglais on appelle voice over n'est à mon avis pas si généralisé que ça dans les séries actuelles, même si c'est difficile à quantifier.
Il y a quand même des séries assez connues qui l'utilisent, comme Dexter, Sons of Anarchy, Narcos, Grey's Anatomy. Je pense aussi à une excellente série que tu connais d'ailleurs, Ziad, c'est Mr. Robot, la série de l'américain Sam Esmail, sorti en juin 2015 et qui raconte l'aventure anti-système d'un jeune informaticien hacker en proie à une psychose. Un conte moderne de la décadence narré depuis l'intérieur de son cerveau où la voix off structure tout le récit.
Cette série a d'ailleurs remporté le prix de l'Association française des critiques de séries lors du festival Sérimania.
Et d'ailleurs, le fait qu'il existe une association de critiques de séries souligne à quel point le genre a acquis ses lettres de noblesse.
N'est-ce pas, François Jost ?
Les séries sont anoblies très fortement sous l'impulsion de chaînes câblées ou de chaînes à péage. Il s'agissait de satisfaire quand même un public précis que la chaîne connaissait. Donc ça a amené dans les séries pas seulement des thèmes différents, mais aussi des limites du représentable différentes. Oz, par exemple, qui, je crois, commence en 93, montre la vie en prison, dans une prison assez modèle d'hommes, et il y a des scènes d'homosexualité qui sont extrêmement osées, quand même, extrêmement fortes. De même, vous savez qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de dire de gros mots. Là, il y en a partout. Il y a eu Deadwood qui a battu le record du monde des fucks. Je crois qu'il y en avait tous les 3 secondes, quoi. Enfin bon. Et donc ça, c'est une sorte du retour véritablement du refoulé. C'est-à-dire que ces séries, elles se sont aussi fait connaître par cette liberté de ton que ne permettaient pas les grandes chaînes américaines. Mais je pense qu'il y a plusieurs vagues de l'annoblissement. Alors, il y a des chaînes comme HBO qui ont fait des campagnes de publicité, etc., qui annoblissaient aussi. C'est-à-dire que, par exemple, HBO recomposait des tableaux très connus pour montrer que c'était l'art qui était le but de HBO. Donc, ils ont eux-mêmes essayé de promouvoir. Vous savez, c'est comme Canal Plus qui disait Canal Plus, c'est pas de la télé. HBO, le slogan, c'était It's not TV, it's HBO. Donc, ils ont bien insisté sur le fait que les séries allaient vers le cinéma. Et puis après, je pense que c'est un deuxième temps, de plus en plus de réalisateurs de cinéma viennent vers les séries, effectivement, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont beaucoup plus de possibilités pour s'exprimer, parce que c'est sur le temps, il y a une construction très différente du scénario, etc. Mais il y a, oui, il y a David Lynch, et puis il y a eu Lars von Trier aussi, qui a fait des séries au Nord. Si on prend, si je me trompe pas, mais il me semble que Vince Gilligan, qui a fait Breaking Bad, sort de NYU. Hein, il a fait ses études de cinéma à New York. Donc ils sont formés à faire des études de cinéma. Moi, j'ai enseigné le scénario... Hein, un moment de ma vie assez fréquemment. Enfin, c'était un cours que je faisais. Mes étudiants, ils voulaient tous faire du cinéma. Ils se seraient sentis déclassés à faire de la télévision. Or, il n'y a pas cette méfiance envers la télévision aux États-Unis de la même façon. Donc, voilà, il y a des vrais scénaristes. It's not TV.
It's HBO. Cette tendance à vouloir s'émanciper de la télé m'a fait penser aux séries comme un média de la post-télévision. La post-télévision, c'est un concept développé par l'écrivain et sémiologue Umberto Eco. Il est repris en 2006 par le sociologue des médias Jean-Louis Misica dans son ouvrage « La fin de la télévision ». À l'époque, la thèse de Misica avait fait couler beaucoup d'encre. Derrière ce titre apocalyptique, l'auteur expliquait que la télévision traditionnelle, linéaire, et son support matériel, le petit écran, étaient voués à disparaître. Pourquoi ? Parce que la télé allait être absorbée par le plus grand média de masse, c'est-à-dire Internet.
D'accord, mais aujourd'hui, nous consommons des programmes télévisuels en ligne et pourtant, en même temps, la télévision est toujours vivante. Le streaming n'a pas tué la télé. 10 ans plus tard, en quoi l'approche du sociologue Jean-Louis Misica est toujours pertinente ?
Misica a prévu la décroissance de l'usage de la télévision traditionnelle. C'est un fait, nous achetons de moins en moins de postes de télé et nous passons de moins en moins de temps par jour devant les postes que nous avons déjà. Ce que j'ai trouvé intéressant de souligner, c'est que au moment où le sociologue a sonné la fin de la télévision, à cet instant-là, a commencé à germer au fond du cortex cérébral de notre société une culture télévisuelle nouvelle, celle des séries télé. Il y a 10 ans, Misica craignait que l'éclatement des moyens de diffusion de la télé ne desserve la création audiovisuelle. Il pensait que plus il y aurait de canaux, plus il serait difficile d'attirer le spectateur vers un programme nouveau. Dépossédé de ses rendez-vous quotidiens, inondé par des milliers de sites de visionnage, le public allait devenir, selon lui, moins attentif aux contenus originaux.
La post-télévision telle qu'elle apparaît en 2016, en tout cas, ne ressemble pas à ça. Nous n'avons jamais été autant à l'affût des dernières séries sur le marché. Nous n'avons jamais été aussi attentifs à ce que nous racontent les fictions TV. Pourquoi les séries nous obsèdent, nous ensorcellent à ce point ? La réponse est à trouver au plus profond de nous-mêmes. C'est en tout cas ce que pense François Jost, auteur de « De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?»
Ce livre, en fait, il était sur certaines séries américaines qui avaient le plus de succès en France et aux États-Unis, comme notamment Le Mentaliste qui passe sur TF1. Et en regardant ces séries, je me suis aperçu que les héros de ces séries étaient des gens qui avaient des pouvoirs un peu paranormaux, on peut dire, et notamment celui de se transporter dans la tête des gens. Par exemple, le mentaliste, eh bien, en écoutant, en regardant des gens, comme aussi le héros de Lie to Me, qui s'appelle Lightman, en observant le faciès de quelqu'un, en observant ses mous, en observant ses gestes, etc., il est capable de comprendre l'intériorité de ces gens. Et donc, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que les séries réussissent ce vieux fantasme de toute fiction, qui est de se transporter dans la tête de l'autre. Parce que vous savez, il n'y a que la fiction qui peut faire ça. Justement, la réalité ne peut pas le faire. Et donc, on aimerait bien dans la réalité dire « Tiens, je pense qu'elle est en train de penser ça de moi, etc. » Mais on ne peut pas. Or, la fiction le fait. C'est-à-dire que le roman faisait déjà « Pensa-t-il, se dit-il, etc. » Donc, on peut se remporter dans toutes les têtes. Mais les fictions, ces fictions américaines, le font par le biais même de leur histoire, des récits qu'ils inventent. C'est-à-dire que ce sont tous des personnages. Il y a beaucoup de personnages qui sont soit un peu médiums, soit mentaliste, soit physionomiste, si on peut dire, sémiologue, en quelque sorte. Et donc, je le rattache à une société qui, sur tous les tons, réclame la transparence. que ça soit la transparence politique, que ça soit la transparence de la vie privée des gens. Ces séries apportent ce bénéfice symbolique, c'est-à-dire que il y a une sorte de communication magique de certaines personnes avec d'autres. Donc voilà, je pense que c'est très révélateur, si vous voulez, d'une société qui souhaite la transparence, connaître ce qui est la vie de l'autre, qu'on voit dans d'autres domaines de la télévision, comme Big Brother, hein, c'est-à-dire voir les gens par transparence, voir leur vie par transparence, et d'une certaine façon, ça peut être évidemment très dangereux, c'est-à-dire que pour la liberté, ça peut devenir tout à fait dangereux, qu'il n'y ait plus du tout de vie privée.
Le plaisir que nous procurent les séries télé est donc lié à notre tendance au voyeurisme. Mais il y a aussi l'amour des bonnes histoires, du suspense, de la narration léchée, des personnages bien brossés. Il y en a pour tous les goûts et j'ai personnellement du mal à trouver que le phénomène des séries est une source d'inquiétude, si ce n'est quand on en abuse.
On peut parler de plaisir des séries, mais aussi de douleur et de mal-être. Pourquoi ? Eh bien justement à cause de la relation personnelle que nous avons développée avec ces médias.
Le temps est distendu quand nous sommes face à nos épisodes. Addiction, syndrome d'abstinence et insomnie sont des mots souvent associés à cette activité. Que pensent les sériephiles des excès sériels ?
Souvenez-vous, au début de cette émission, j'ai entamé une séance de binge-watching avec Steven, Indian et Adriane. Eh bien, au bout de quelques heures, nous avons fini notre marathon de visionnage et nous en avons discuté.
Les séries comiques, en général, elles sont là pour qu'on les regarde à plusieurs, parce que tout seul, c'est drôle, mais ça l'est quand même moins que si on est plusieurs à la regarder. Et puis, les séries dramatiques, enfin, les séries qui prennent au cœur, enfin, moi, je sais que j'aime les regarder seules parce que, je sais pas, je vis comme une certaine intimité avec... avec les émotions que la série veut me transmettre et c'est plus facile de se perdre, d'être hypnotisé tout seul, en fait.
Comment vous qualifierez ce moment où le générique de fin apparaît et qu'il sait bien de se passer quelque chose de très important et vous voulez savoir ce qui va se passer après?
C'est frustrant.
Voilà.
Souvent, je déteste quand toute la saison n'est pas sortie. Parce que ça veut dire attendre chaque épisode et...
Mais justement, pourquoi ça te fait quoi quand tu finis un épisode et que tu sais que tu vas devoir attendre une semaine pour voir ce qui se passe après?
Soit je suis trop impatiente, soit je me dis, bah, après j'ai... Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai envie de terminer ça du début jusqu'à la fin. Puis sinon après j'oublie,
semaine,
je fais autre chose.
Pourquoi? Pour une heure, même pas.
Ouais,
donc c'est énorme, quoi.
Alors que tu pourrais tout faire d'un coup.
Ouais.
Mais je trouve que les meilleures séries, franchement, c'est celles qui t'obsèdent. En mode, si tu regardes pas l'épisode d'après, t'es... Enfin, moi, je sais que ça m'arrive, les meilleures séries, celles que j'ai vraiment adorées, c'était, fallait que je voie l'épisode d'après, parce que sinon j'y pensais, la nuit j'en rêvais, tout ça. Puis, je dis pas toutes les séries, mais il y en a eu certaines qui étaient vraiment excellentes.
Comme quoi, par exemple?
Ça m'a fait ça pour Borgia, The Big Bang Theory, Misfit, Game of Thrones, où... Oh, faut que tu vois l'épisode d'après, parce que c'est trop bien.
Voir son propre reflet sur l'écran télé ou l'écran d'ordinateur, c'est ça la post-télévision pour le sociologue Jean-Louis Missika. Il écrivait il y a 10 ans « Celui qui est à l'écran n'est pas différent de moi ». Pour la première fois, les marques de différenciation entre celui qui parle et celui qui écoute disparaissent. Par une sorte de mise en abîme, la télévision affiche ainsi sa puissance. Elle n'est plus un simple lieu d'expression, elle est le vecteur, le coach, l'initiateur de l'épanouissement personnel. L'individu veut s'affirmer, devenir lui-même, vivre ses rêves, réaliser ses désirs, explorer ses potentialités. La télévision lui propose ses services.
Est-ce que l'auteur de La fin de la télévision a vu juste dans son interprétation des transformations du média, Mélissa ?
À mon avis, pas tout à fait. En tout cas, pas en ce qui concerne les fictions télévisuelles. En 2006, il s'alarmait surtout de la montée en puissance des émissions de télé-réalité, sans savoir que les séries allaient finalement prendre le dessus.
Et cette tendance est reflétée par l'explosion de la production des séries. Rien qu'aux États-Unis, pays qui exporte bien entendu très bien ses fictions télé, ont été produites 409 séries en 2015. Ce chiffre s'élevait à 200 il y a 7 ans, nous dit le New York Times.
Jean-Louis Missika écrivait aussi en parlant de la télévision. À mesure que décline la capacité du média à organiser les soirées de son public, à lui fixer des rendez-vous et à tenir les horloges de son temps libre, celui-ci se fait plus infidèle et plus capricieux. Est-ce qu'on peut dire qu'on est devenu plus capricieux, plus sélectif face à la télé ? Oui, certainement, nous choisissons à la carte ce que nous aimons dans l'offre télévisuelle. Est-ce qu'on peut dire qu'on est devenu plus infidèle au programme télévisuel ? La passion grandissante pour les séries nous prouve que non, nous ne sommes pas devenus infidèles à la télévision, diront certains, nous sommes devenus fidèles à une autre télévision, moins poubelle, plus qualitative.
Et cette autre télévision nous questionne sur le monde dans lequel nous vivons. Elle contribue à alimenter notre imaginaire social tout en l'incarnant. Comment nous percevons et questionnons le monde à travers les séries ? Quelle image renvoient ces fictions de nos sociétés ? Que nous apprennent-elles de la politique et du vivre ensemble ? Ce sera dans le second épisode de notre série consacrée aux séries avant-goût.
C'est au moment où changent les séries que change le monde. Et il y a une rencontre entre le temps des séries, entre guillemets, et le temps du monde qui se transforme profondément autour du 11 septembre 2001. Et les séries vont envahir l'imaginaire du monde. Mais par quoi est dominé l'imaginaire du monde ? Par la peur qui suit les attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Où est passée mon équipe ?
La réponse à cette question comprend plusieurs parties. Premièrement, on va faire un essai avec Elliot à 22h. Il commence dans 15 jours.
Bien, avec le bon chef d'édition, il serait excellent.
C'est aussi ce que je crois. Et je sais à quel point il apprécie que tu aies pris fait des causes pour lui. Il a beaucoup d'estime pour toi.
Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon équipe ?
Il embarque toute ton équipe.
Je suis pas sûr de comprendre.
L'atelier des médias cette semaine était signé Mélissa Barra, Simon De Creuse, Yad Malouf, en coulisses, Camille Deloche, Manon Mella, Mathias Virelli. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de l'atelier des médias en contrat d'alternance, nous chercherons des personnes à partir de la rentrée. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à atelier@rfi.fr, nous vous renverrons toutes les informations nécessaires. atelier@rfi.fr. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
Désolé de ne pas t'avoir présenté à la réunion. Tout s'accélère avec cette action collective.
Je tenais à te remercier pour la chance que tu m'as offerte. Tu me sauves la vie.
De rien, je suis ravi de t'avoir. Ça te plaît d'être affecté à l'assistance juridique ?
Oui, c'est intéressant.
Bien. Diane, tu mets Alicia au courant ? Bien, je te laisse en bonne main.
Comment allez-vous ? Will ne tarit pas d'éloge à votre égard. Vous êtes sorti major de votre promotion à Georgetown, c'est ça ? En quelle année déjà ?
Il y a presque 15 ans.
Et vous avez passé 2 ans chez...
Rosier Abrams et Abbott.
Excellent cabinet. Selon Will, vous étiez un véritable bourreau de travail. Pourquoi avoir arrêté ?
Eh bien...